L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM. L'EM, c'est toujours le magazine, l'émission quotidienne. Une émission très finistère, à midi en direct et en rediffusion à 18h. Et aujourd'hui, on se tourne vers les agricultrices. Est-ce qu'elles sont en train de bloquer l'autoroute avec leurs tracteurs? Est-ce qu'elles cassent aussi des bâtiments publics? Peut-être y a-t-il des femmes qui manifestent contre le trop-plein de contraintes administratives? Peut-être, mais ce n'est pas vers ces agricultrices qu'on se tourne dans cette émission, qui est réalisée en partenariat avec le groupement des agriculteurs biologiques, le GAB du Finistère. Le GAB qui est un syndicat et qui parmi ses missions propose des formations ou des temps d'échange entre ses adhérents et parfois même uniquement entre ses adhérentes. La non-mixité en fait crier certains, mais pourtant elle peut se justifier. Après tout, la non-mixité masculine s'est appliquée à bien des domaines pendant des milliers d'années sans qu'on lève un sourcil. Avec nous, autour de cette table, il y a Alexandra Lanuzel qui est chargée de communication et de mission égalité pour le GAB 29. Bonjour.
Bonjour.
Alors les femmes, déjà, est-ce qu'on peut faire un petit topo du nombre qu'elles représentent en agriculture en général, et puis dans le Finistère, et puis en agriculture bio?
Alors, en agriculture en général, il y a à peu près 30% des actifs qui sont des femmes. Donc là, on compte à la fois les personnes qui sont chefs d'entreprise et les salariés. Donc 30% au global.
En France?
En France, en agriculture, tout confondu. Donc, si on regarde du côté des chefs d'entreprise, il y a 25% de femmes. Et en bio, on est plutôt aux alentours des 30% de femmes.
Et ça, c'est pour la France en général, et dans le Finistère, ça, oui, les chiffres sont les mêmes à peu près?
En Finistère, en France, on est à peu près sur des chiffres équivalents.
Donc quand même un quart de chef-feu d'exploitation, ce qui est pas mal. Et la bio qui attire, qui est plus féminine, mais pas tant que ça finalement. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus féminin que l'agriculture conventionnelle. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années?
Oui, alors on a quand même une évolution. Aujourd'hui, on a 40% des personnes qui ont des projets bio qui sont des femmes. Donc on approche petit à petit des 50% quand même. Voilà.
Bon, ben c'est lent. Enfin, y a pas de, j'imagine que c'est une progression qui est lente et continue. Enfin, il n'y a pas de pic, si?
Non, ouais. il n'y a pas de pic, non. Ça évolue progressivement, effectivement.
Et puis après, dans les projets d'installation, elles ne s'installent pas toutes. Hein. C'est peut-être pour ça que...
Effectivement, on remarque notamment que par rapport au nombre de personnes qui se présentent avec un projet, on a finalement plus de projets d'hommes qui aboutissent que de projets de femmes.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Alors, les femmes, globalement, s'installent plus tard. Donc, on imagine que c'est parce qu'il y a la charge familiale qui est là.
Plus tard, c'est-à-dire par rapport à leur âge?
Oui, par rapport à leur âge, oui. Ouais. Donc, la charge familiale qui est là, qui complique parfois l'organisation, le fait de pouvoir se libérer du temps pour se pencher sur un projet quand même. Qui...
Oui, c'est pas rien, un projet
c'est
agricole.
Pas rien. On a aussi plus de femmes qui sont non issues du milieu agricole, qui ont envie de s'installer, et donc non issues du milieu agricole, qui n'ont pas fait de formation agricole. Voilà. Donc, du coup, ça ne simplifie pas forcément les projets d'installation.
Mais pour s'installer, elles sont quand même obligées de faire le fameux BPREA, c'est ça, le brevet professionnel de...
Oui, alors il faut avoir un niveau, il faut avoir fait une formation agricole, effectivement, pour pouvoir s'installer. Le BPREA, ça fait partie des formations possibles, mais c'est pas la seule.
Ah
mais...
oui, il y en a d'autres.
Alors, il faut avoir fait une formation agricole pour pouvoir s'installer en bénéficiant des aides à l'installation.
Ah oui, mais sinon après on peut se passer d'aide, mais enfin c'est plus difficile. Et est-ce qu'elles se tournent vers des productions en particulier? Est-ce qu'elles sont plus nombreuses à se tourner, je sais pas, vers le maraîchage, ou c'est quoi leur production de prédilection?
Alors je vais répondre pour la bio, parce que c'est la bio que je connais. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de femmes qui se tournent vers des petites productions, entre guillemets, je rajoute vraiment le terme entre guillemets, en tout cas des productions qui nécessitent moins de moyens financiers au démarrage. Voilà, donc on va se retrouver sur des systèmes maraîchers, sur des systèmes petits ruminants, ovins caprins.
Les chèvres voilà. Et tout ça.
C'est ça. Mmh. Mmh. On va moins avoir de femmes qui s'installent en vache laitière, par exemple.
Bon, de toute façon, c'est une des productions qui est les plus difficiles. Je me demande si les hommes ne sont pas aussi en train d'être de moins en moins nombreux à s'installer en vache laitière.
Effectivement, il y a quand même une crise de vocation globalement, que ce soit en bio, non bio, chez les hommes, chez les femmes, sur les métiers d'élevage.
Et ça, c'est des chiffres plutôt, enfin, c'est des tendances plutôt finistériennes ou c'est pareil, c'est un peu national, ce prisme féminin pour des petites unités
C'est national. Après, bon, il y a des régions qui ont leur typicité aussi avec l'œnologie, tout ce qui est viticulture qui attire aussi de plus en plus de femmes. Mais voilà, chez nous, on n'est pas concernés.
Est-ce qu'elles sont plus transformatrices que leurs collègues masculins ou pas, d'ailleurs?
Alors, effectivement, les femmes sont plus sur des systèmes qui vont englober de la transformation et de la vente. Voilà. Il y a cette notion aussi de contact avec le consommateur qui est importante pour les femmes. Mmh.
Donc, vous, au GAB 29, au Groupement des agriculteurs bio du Finistère, vous êtes emparé de ces questions d'égalité. Pourquoi, comment, depuis quand? Allez-y, dites-nous.
Donc, on est fédéré au niveau régional et national. Et notre fédération nationale, qui s'appelle la FNAB, a lancé en 2018 une enquête auprès des agricultrices. Et cette enquête, elle a reçu beaucoup de retours. Donc, il y a eu 2000 réponses quand même, c'est pas rien. Et pourquoi cette enquête avait été faite? C'était parce qu'il y avait un constat que les femmes ne s'engageaient pas du tout dans les instances décisionnelles de nos structures. Que ce soit au niveau national, régional, départemental, les CA, les conseils d'administration sont essentiellement composés d'hommes. Et donc la Fédération nationale, à un moment donné, a voulu essayer de creuser ces questions-là, d'avoir au moins une explication.
Oui, surtout que dans la bio, elles étaient plus nombreuses, donc potentiellement dans les conseils d'administration, il y aurait dû avoir plus de femmes.
Voilà. Mmh. Et la réponse qui est ressortie, c'est que les femmes manquaient de temps et que les femmes ne se sentaient pas légitimes. Mmh. En 2019, en Finistère, on a fait notre Assemblée Générale, nous, sur la question de l'égalité, de la parité, justement pour essayer d'avancer aussi en lien avec notre tête de réseau sur ces questions-là. Et puis, on a voté une motion d'objectif de parité au sein de notre conseil d'administration. En 2019, de mémoire, sur un conseil d'administration qui compte au moins 15 personnes en général, on devait avoir 2 ou 3 femmes, avec vraiment une ou deux, je dirais plutôt une, qui était présente et qui participait vraiment à la vie de la structure. Mmh. Donc on a voté cette motion. Et puis, on s'est aperçu que ça ne changeait pas tout seul.
Ah bon, comme c'est étonnant.
Ouais. Donc, voilà, on savait qu'on connaissait quand même moins les agricultrices que les agriculteurs. C'est souvent les agriculteurs qui se déplacent en formation, qui viennent en réunion. Et finalement, les agricultrices, on les voyait moins. Donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir peut-être créer des lieux de rencontre où on allait plus facilement les attirer. Donc, voilà, sont nés les groupes qu'on a appelés groupes paysannes en non-mixité. Sont nés justement suite à ces constats et pour que les agricultrices en fait se connaissent mieux entre elles, que nous on les connaisse mieux et pouvoir répondre à leurs besoins et éventuellement faire qu'à un moment donné elles aient envie elles aussi de participer à la vie d'une structure qui leur rend service en s'impliquant dans les instances.
Et ils ont été lancés quand concrètement ces groupes paysannes?
En 2021.
Donc là, on a un recul de 2 ans déjà. Et comment c'est organisé? Parce que j'imagine que comme elles n'ont pas le temps, n'est-ce pas, il faut être le plus proche d'elles possible. Enfin, comment vous leur proposez ces groupes-là ?
On a créé plusieurs groupes par secteur. On a trois groupes pour l'instant disséminés sur le département qui fonctionnent. On a pour objectif de créer un quatrième groupe du côté de Châteaulin. Voilà.
Sinon, ils sont où les autres ?
Donc, on a un groupe au nord-ouest de Brest, donc Pays d'Iroise, un peu Pays des Abers. On a un groupe du côté de Morlaix et un groupe sud, voilà, plutôt sud-est. Mais qui se balade un peu des fois.
Mais effectivement, au milieu, il manque quelque chose, finalement.
Voilà, ouais. Ouais.
Donc ça sera pertinent. Vous allez faire ça cette année, peut-être ?
Oui, pour les prochaines rencontres, on va proposer effectivement un nouveau groupe.
Et quelle est la fréquence des rencontres ? Qu'est-ce qui est proposé pour les rencontres ?
Donc, faut savoir qu'en agriculture, on est quand même pas mal contraint par le temps dont disposent nos adhérentes. On a beaucoup de maraîchères à participer à ces groupes en non-mixité et les maraîchères sont disponibles en gros à partir du 15 octobre jusqu'au 15 mars vraiment.
Voilà. Donc c'est saisonnier.
Donc ça nous laisse une fenêtre assez courte finalement pour mettre en place des groupes. Donc sur ce créneau-là, on arrive à faire un ou deux groupes. On aimerait bien pouvoir en proposer trois.
Une ou deux rencontres, enfin, pas plus,
oui,
sur le semestre.
Groupe, c'est ça, voilà. Et on propose ces groupes-là sur l'heure de midi, justement pour que ce soit plus facile aussi en termes d'emploi du temps.
Et parce qu'éventuellement, ouais, si une éleveuse de chèvres, elle les traite, c'est le matin et le soir, donc elle peut venir.
Oui,
c'est ça.
Voilà.
Aussi.
Ouais.
Bon.
Et puis de toute façon, le midi, il faut bien manger, donc qu'elles mangent ensemble ou,
ah, voilà.
ou chacune. Chez elle, ça marche.
Et alors, on mange. Et puis sinon, de quoi on parle ? Est-ce qu'il y a un thème qui est défini ? Comment ça se passe ?
Alors, lors des premiers groupes, c'était vraiment des discussions ouvertes où finalement, c'est quand même souvent les mêmes sujets qui reviennent. Donc, organisation du travail en lien avec la vie perso, charge mentale, ergonomie des outils, répartition des tâches qui sont genrées. Le manque de compétences ou parfois le manque de sentiment de légitimité pour s'occuper de certaines tâches. Donc les premières rencontres, c'était pêle-mêle. Et puis, on a proposé donc, aux différents groupes de choisir une thématique pour continuer d'avancer, de travailler. Donc il y a deux groupes qui ont choisi de travailler sur l'organisation vie pro-vie perso. Les barrières en fait, enfin, comment justement essayer de mettre des barrières entre la vie perso, la vie pro, mieux répartir le travail de la maison, se poser des questions sur l'organisation du travail à la ferme, etc. Et il y a un groupe qui a choisi de travailler sur confiance en soi.
Mm-hmm.
Alors, confiance en soi, prise de parole.
Bon. C'est large, en effet, aussi. Les deux sont assez larges. Et donc, c'est des ateliers de travail. Enfin, y a pas de... Est-ce que vous passez aux travaux pratiques ou est-ce que c'est surtout discuter dans ces rencontres ?
Oui, c'est vraiment de l'échange, en fait. C'est vrai que chacune a son propre témoignage qui vaut de l'or, en fait, pour les autres. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur l'expérience de chacune et de partager.
Et celles qui ne sont pas encore installées peuvent venir aussi pour savoir à quoi s'attendre après.
Justement, ça fait partie effectivement de l'objectif de ces groupes. Il y a des choses qu'il faut réfléchir justement avant l'installation. Et la présence de porteuses de projets à ces groupes, elle a toute sa place. Parce que les personnes qui sont installées depuis longtemps, justement sur la répartition des tâches, quand on est installé avec son conjoint ou son frère, ou etc., en fait, il y a des choses qui se mettent en place un peu insidieusement, notamment des fois après la naissance des enfants, parce qu'il y a eu une période d'absence au travail et qu'il y a des habitudes qui ont été prises et que certaines ont du mal après à retrouver leur place.
Parce que la plupart ne travaillent pas seules. Enfin, la plupart de celles qui viennent aux rencontres ne sont pas installées seules.
Il y a de tout.
Mmh. Ah oui, d'accord.
Il y a de tout. Mais c'est vrai qu'on a quand même une bonne proportion de personnes qui sont installées en couple, finalement. Mmh, c'est un modèle assez classique en agriculture, parce que souvent, c'est des projets de vie en même temps.
Oui, c'est difficile d'être tout seul. Ouais. Mmh.
Donc du coup, c'est vrai que c'est important pour les porteuses de projets d'entendre ça de la bouche de personnes qui sont déjà installées et puis de se questionner vraiment sur ce qu'on a envie et de pas être sur des modèles qui sont prédéfinis, qu'on a l'habitude de voir avec l'homme qui est au tracteur dans les champs en fait, et puis la femme qui est à la compta et à la salle de traite. Mmh.
Ou à la fromagerie.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait. Et donc ça, c'est les rencontres paysannes. Et puis, ont émergé, enfin, vous faisiez déjà au GAB des formations, mais des formations plus spécifiques peut-être qui ont émergé de ces groupes-là ou...
Oui, alors les formations, effectivement, sont venues en parallèle de la mise en place des groupes en non-mixité. Les besoins ont émergé des groupes, en fait. Hein. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, les formations en non-mixité pourraient avoir un intérêt pour nos adhérentes. Alors, pourquoi est-ce que cette non-mixité est intéressante ? En fait, on se rend compte que les femmes, au moment de l'installation, elles n'arrivent pas du tout avec les mêmes compétences que les hommes. Parce que tout au long de leur parcours et même en fait de leur vie, on ne leur a pas du tout proposé ni incité, par exemple, à conduire des tracteurs.
Encore moins à le réparer, j'imagine.
Encore moins à le réparer. C'est vrai que c'est des choses qu'on propose plus facilement dans notre société à des hommes. Certaines femmes qui ne sont pas issues du milieu agricole, auxquelles on a pas proposé pendant leur stage de prendre le volant parce que c'est comme ça quoi. Elles se retrouvent au moment de l'installation sans avoir quasiment jamais touché un tracteur.
Il n'y a pas besoin de permis de tracteur hein, pour non c'est
non,
ça pour conduire un
besoin.
Tracteur. Il
n'y
a pas de... D'accord, ok.
Voilà, après c'est pareil, là on vient d'organiser une formation sur l'utilisation de la tronçonneuse. Chez les hommes, en fait, il y a beaucoup plus d'occasions de pratiquer que chez les femmes. On va plus souvent, par exemple, entre voisins, demander au voisin homme, tiens, tu viens me donner un coup de main pour abattre mon arbre, qu'à une femme. Donc, les occasions se font rares et du coup, cet écart de compétences au moment de l'installation, il a des conséquences. Et l'idée, c'est de proposer des formations à des personnes du coup qui ont le même vécu et qui arrivent avec le même niveau.
Et là, la non-mixité, qu'est-ce que ça apporte concrètement dans les séances tronçonneuses ou tracteurs ?
Alors, ce que disent nos participantes, c'est qu'elles trouvent que c'est des formations où il y a beaucoup de bienveillance, que l'ambiance est apaisée.
Quand il y a des hommes, ça se passe pas.
Et puis surtout, en fait, c'est des personnes qui ont vraiment le même vécu. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la conduite de tracteur. La conduite de tracteur, c'est lié à la conduite globalement. Et puis, quand on sait conduire une voiture, on sait conduire un tracteur, en fait. C'est une histoire de confiance. Et c'est vrai que qui n'a pas entendu femme au volant, mort au tournant. Donc ça, c'est des choses en fait, qui sont ancrées dans le cerveau des femmes. Depuis...
Alors qu'en plus, c'est complètement faux, en termes de chiffres, d'accidentologie en tout cas.
Donc ouais. C'est tellement ancré qu'au bout d'un moment, les femmes se disent « bon, c'est comme ça, je ne suis pas capable en fait ». Donc c'est... la non-mixité, c'est surtout se retrouver avec des personnes qui ont le même vécu et pouvoir poser des questions qui vont peut-être paraître complètement stupides à quelqu'un qui finalement est encouragé, qui est baigné depuis son enfance à conduire, bricoler, etc. et qui pourtant sont essentielles.
Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres formations, alors peut-être moins techniques, mais qui sont demandées aussi ou que vous pensez mettre en place en rapport avec cette question d'égalité ?
Alors, on propose une formation autour de la santé, en fait, travail et corps féminin. C'est-à-dire, on est une femme, on est moins musclée, mais on a un boulot qui est physique. Comment est-ce qu'on fait pour tenir dans la durée ? Donc, dans cette formation-là, on va s'intéresser à la fois à tout ce qui est gestes et postures, échauffement, étirement, et il y a aussi toute une partie sur le cycle féminin. Le cycle féminin qui a un gros impact finalement au niveau de l'énergie, et l'idée c'est de savoir comment s'en servir en fait pour assurer au quotidien, et comment s'écouter surtout.
Et sur la santé, vous avez aussi des formations qui s'adressent aux hommes, j'imagine, non? Mais elles sont en non-mixité aussi pour les hommes?
Non, pour l'instant, on ne s'est pas lancé là-dedans. Non. On n'a pas eu de demande non plus.
Et est-ce que vous proposez des formations aux hommes employeurs qui emploient des femmes sur cette question-là?
Non, ça c'est pareil.
Enfin, les questions en fait... d'égalité en général, pas seulement le corps d'ailleurs.
Pour l'instant, non. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez récent finalement qu'on s'intéresse à ces questions-là au niveau du groupement. Donc on prend les choses un peu les unes après les autres. Donc là, pour l'instant, effectivement, on répond aux demandes de nos adhérentes par le biais de groupes non mixtes et de formation. Et puis, ça fera peut-être partie des étapes futures.
Et les hommes, d'ailleurs, comment les hommes du réseau, GAB 29, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ces formations, ces offres spécifiquement aux femmes?
On a eu quelques retours, quelques questionnements, mais finalement assez peu. L'accueil est positif dans l'ensemble.
Il y en a peut-être qui constatent des conjoints ou des frères qui constatent que c'était très positif après coup, je veux dire.
Oui, et puis quand on prend le temps d'expliquer finalement, parce que c'est vrai que la non-mixité ça peut faire peur, mais quand on prend le temps d'expliquer aux hommes que finalement eux, des temps non-mixité, ils en ont en pagaille et qu'on n'en fait pas un foin. et qu'on explique pourquoi est-ce que c'est important pour les agricultrices et futures agricultrices de se retrouver entre elles, finalement les choses, les hommes comprennent et puis ça se passe bien.
Alors il y a les rencontres paysannes, il y a les formations en non-mixité et là vous allez mettre en place petit à petit d'autres mesures pour favoriser l'égalité dans la vie quotidienne agricole. Lesquelles?
Alors on va lancer un diagnostic qu'on appelle le diagnostic égalité. Qui va nous permettre en fait de questionner des personnes travaillant sur une ferme sur l'inclusivité de leur ferme. Donc on va plutôt partir sur des fermes où il y a une femme et un homme qui travaillent ou plusieurs, mais avec de la mixité sur la ferme. Et l'idée, ça va être de voir si, par exemple, le matériel qui est mis à disposition de l'ensemble des associés ou des salariés ou des stagiaires est adapté aux femmes, enfin, ou même de façon plus globale aux petits gabarits. On peut avoir des hommes de petits gabarits.
Tout à fait.
Vérifier qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y aura aussi toute une partie de questionnement autour de la répartition des tâches, donc voir qui s'occupe de quoi, est-ce que c'est choisi ou subi, pouvoir y réfléchir. Il y a une partie sur ce que propose la ferme de façon globale, donc à savoir est-ce qu'il y a des toilettes avec une porte qui ferme, des vestiaires où on puisse être tranquille, un point d'eau, enfin voilà, des questions assez bateaux finalement, mais qui ont toute leur importance. Et j'oublie un point, ah oui, il y a aussi une partie sur la prise de décision, donc savoir au sein de la ferme comment est-ce que sont prises des décisions. Typiquement, il faut changer un tracteur, c'est majoritairement, dans bien des cas, les hommes qui vont se charger de décider s'il faut changer le tracteur ou pas, quel tracteur il faut prendre, parce que c'est eux qui utilisent l'outil. Mais peut-être que s'il y avait une réflexion de fait qui inclut davantage les femmes, peut-être que les décisions seraient prises un petit peu différemment.
Donc chaque diagnostic de ferme, ça prendra combien de temps à peu près?
Donc ce qui est prévu, c'est une première visite avec une heure de prise avec chacune des associés. Dans un deuxième temps, une restitution avec l'ensemble des associés qui peut durer 2 heures.
Et vous prévoyez d'en auditer combien des fermes dans le Finistère ?
La période printemps, début d'été, on s'est donné comme objectif déjà de tester le diagnostic et puis d'en faire 5, de voir si ça répond à une demande et puis de pouvoir en proposer davantage par la suite.
On suivra ça évidemment attentivement. Juste un dernier mot sur le comment. Est-ce que vous avez prévu des actions, alors cette fois pour le public extérieur au monde agricole, pour qu'il ait une image un peu plus féminine de l'agriculture? Parce qu'il y a une BD célèbre, C'est qui le patron, que je recommande à tout le monde, hein, sur le fait que quand on voit une femme dans un champ et qu'on cherche le patron, on va demander c'est qui le patron sans penser que ça peut être elle. Et qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus au GAB?
Si donc effectivement, on sait que l'agriculture a une image plutôt masculine. Et d'ailleurs, dans les formations agricoles, aujourd'hui encore, on est loin d'être à la parité au niveau des effectifs élèves. Alors, si on regarde les chiffres officiels, en fait, on y est, sauf que les formations d'aide à la personne qui sont dispensées dans les MFR, par exemple...
Ah oui, dans les maisons familiales rurales. Oui.
Voilà, rentrent dans les statistiques. Et là, pour le coup, on a le problème qui est inverse, c'est qu'il y a... Il n'y a que des femmes. Il y a
quasiment,
un gros manque de mixité. On n'a pas d'hommes. Mais voilà, en agriculture, l'agriculture dégage encore une image très masculine. Donc nous, on intervient dans les établissements d'enseignement agricole. Voilà, alors là, on peut se dire qu'ils et elles ont déjà fait leur choix de l'agriculture.
C'est pas encore un public très extérieur,
non,
mais quand
c'est
même.
Ça. Mais du coup, ça nous permet au moins de bien en amont de poser la question de la répartition des tâches. Et voilà, de pouvoir effectivement ne pas s'enfermer dans des schémas tout faits.
Merci beaucoup Alexandra Lanuzel. On pourra réécouter cette émission passionnante et toutes celles qu'on a réalisées avec la Maison de la Bio et le groupement des agriculteurs bio en Finistère sur le site internet de la radio. À bientôt.
Merci.